And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this?
A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy.
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds.
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par Athlétique.com. Marc-Antoine Godin au micro en compagnie d'Arpin Basu. Bonjour Arpin, comment ça va?
Ça va super bien, ça va super bien. Les Canadiens sont dans l'Ouest encore, alors ça veut dire que je consomme beaucoup de café, comme beaucoup, oui. Trop. Mais c'est ça, samedi soir, c'est un match à 7h, je vais avoir l'impression honnêtement que ce serait un match à comme 3h de l'après-midi, là, parce que même hier, match à 9h, je m'assois comme à nuit pour écrire, puis je suis comme « wow, il est tôt, ouais. j'ai beaucoup de temps, c'est beau ». Alors
c'est très étonnant dans la situation actuelle. Tu sais, nous, on est habitués, quand il y a des matchs du Canadien dans l'Ouest canadien, on suit l'équipe, donc on couvre le match à l'heure normale. Et tandis que là, je pense que c'est la première fois que ça arrivait, le Canadien a joué heure de Montréal à 23h. Je t'avoue que quand je me suis installé devant mon ordinateur à 3h, mon écart du matin, commencerai à écrire mon article, je trouvais ça raide un peu.
Ouais, c'est mais ça. Bon. Mais honnêtement, c'est... T'sais, ça vaut la peine de le mentionner vite, là, parce que personne veut se plaindre du calendrier, mais les circonstances qui ont mené à cette situation-là où les Canadiens sont... Et non seulement les Canadiens, mais les Canucks aussi, qui sont obligés de jouer un match à 8h le soir, heure locale, à cause du plage horaire de Sportsnet, puis il n'y avait pas le droit vraiment d'introduire... Il n'y avait pas vraiment d'interrompre la fenêtre qui appartenait exclusivement à Sportsnet mercredi soir. Pour leur match national. C'était quelque chose d'évitable, il me semble. T'sais, c'est comme le Canadien était déjà installé à Vancouver. Il aurait pu trouver une façon de jouer le match mardi, ou jouer un back-à-back lundi-mardi au lieu de jouer lundi-mercredi. C'est toute la situation a fait en sorte que le Canadien se trouvait dans une situation quasiment impossible à Calgary parce que, honnêtement, hier soir, on va le dire, tu sais, tout le monde s'emballe que Daryl Sutter arrive puis le Flames gagne tout d'un coup, mais c'était pas un grand match des Flames. Là. C'était une équipe très battable jeudi soir. Si les Canadiens avaient eu le moindre énergie, la moindre cohésion, le moindre timing, tout ce qu'il faut pour gagner un match ou jouer un match de hockey d'une façon efficace, les Canadiens n'avaient pas à cause simplement du calendrier. Puis il me semble que c'était quelque chose qui était. qui est évitable. Puis une fois que tu vois qu'une équipe joue un match à 11h, heure de l'Est, ça devrait être comme un drapeau rouge à la Ligue nationale pour dire « OK, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça.
» Peut-être pas faire voyager l'équipe le lendemain aussi, là. Oui, écoute, dans ces matchs-là, dans l'Ouest canadien, évidemment, la blessure de Ben Sherratt retient l'attention. J'aimerais ça t'entendre là-dessus tout à l'heure, sa bataille, etc. Également, ce qui passe un petit peu sous le radar en ce moment, c'est les ennuis de Nick Suzuki. Je pense que tout le monde aime Nick Suzuki, tout le monde veut qu'il réussisse. Puis c'était un peu la coqueluche au début de la saison. Il traverse des moments un petit peu plus difficiles. Donc ça, je pense que ça vaut la peine qu'on parle de ça. Je voulais signaler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, notre invité va être Michael Lalancette, qui est connu du public pour avoir été pendant longtemps un journaliste affecté à la couverture de la LHJMQ pour TVA Sports. Il a publié, il y a quelques semaines, la biographie de Georges Vézina, donc il va venir nous en parler. Alors, c'est très intéressant. Mais oui, commençons par Ben Sherratt. Écoute, j'entends les gens dire « Ah ouais, mais là, ça montre bien que c'était ridicule qu'ils se battent. Si c'était pas battu, il se serait pas fracturé la main. » Puis bon, il a couru après le trouble. Cette bagarre-là était clairement évitable dans la mesure où il n'a fait que rendre service au Canucks, parce que JT Miller cherchait à une façon de réveiller son équipe. Puis Sherratt, c'est même pas la première fois cette année qu'il rend ce genre de service-là à un joueur de l'autre équipe. J'espère qu'on va lui rendre l'appareil un de ces jours. Sauf que moi, personnellement, quand je vois les batailles, je m'attendais cette année à ce qu'il y ait des batailles, puis je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que les années précédentes à cause du fait que les équipes se voient tellement souvent. Il n'y a peut-être plus de batailleurs dans la Ligue nationale, ou à peu près plus. Il reste Zach Rinaldo, il reste Michael Haley, puis c'est à peu près ça. Mais l'envie de se battre, la pulsion de se donner des coups de poing quand tu vois la même équipe aussi souvent, je pense pas qu'elle soit disparue. Alors, je pense qu'il faut pas non plus exagérément jouer aux vierges offensées par rapport à ça, là.
Non, mais... Parce que dans le fond, on a eu deux exemples en deux soirs. Et moi, j'ai pas de problème avec Josh Anderson qui se bat avec Milan Lucic. J'ai vu beaucoup de monde qui disait « Ah, ben, qu'est-ce que tu fais en train de se battre? Tu t'es blessé dans une bagarre et perdu quasiment un an complet de ta carrière et tout ça. » Ça écoute, Lucic et Anderson, il y avait un build-up, tu sais. Il y avait quelque chose qui se passait entre ces deux gars-là pendant tout le match.
Ouais.
Ça, c'est une bagarre organique. C'est quelque chose qui arrive naturellement. Honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que les bagarres sont là. C'est pour laisser les gars régler leurs comptes ou régler leurs affaires homme à homme. T'sais. Vas-y, fais-le. Je suis pas pour les bagarres dans le hockey, mais vu qu'ils existent encore, ils sont permis en quelque sorte, même s'ils sont pénalisés. Des bagarres comme celui qu'on a vu de Josh Anderson, on va les voir. Et non seulement ça, mais les Canadiens jouaient tellement mal que Josh Anderson de se dire « OK, moi, je vais me battre contre Milan Lucic puis je vais vraiment donner une étincelle à mon équipe parce qu'on en a besoin.
Oui. »
Dans le cas de Ben Sherratt, c'était l'opposé. C'était le début du match. C'était les Canucks qui avaient l'air du Canadien contre Calgary. C'était les Canucks qui jouaient comme ça. Je pense que les tirs au but au moment du bagarre de Ben Sherratt, c'était 13-3 pour le Canadien. Il dominait le match. Un but s'en venait. Tu sais, Thatcher Demko gardait les Canucks dans le match. C'était 0-0 à cause de lui et seulement lui. Alors, la situation n'était pas un où Ben Sherratt avait besoin de faire ça. Tout le monde après le match disait « Ah, la bagarre, ça nous a donné un boost, ça nous a donné une étincelle. » Puis effectivement, les Canadiens ont marqué un but tout de suite après. Mais je dirais que c'est pas à cause du bagarre. Là. L'abus s'en venait. Le Canadien était dominant. Il allait marquer à un moment donné, peu importe ce que Ben Sherratt a fait. Alors, la décision... Tu sais, comprendre les circonstances du match, comprendre comment ton équipe joue. Il n'y avait rien à gagner en prenant ce bagarre-là pour Ben Sherratt. Il y avait juste des choses à perdre. T'sais, il y avait juste du momentum à donner aux Canucks à ce moment-là. Tandis qu'avec Anderson, son équipe avait besoin de quelque chose. Et en choisissant le gars le plus robuste, le plus tough des Flames, puis dire « OK, assez, là, on va se battre », puis tu sais, il a perdu bagarre, on s'entend, là. C'est Lucic qui l'a remporté, mais dire de là que mes Canadiens ont quand même marqué après, puis j'étais comme ah, « encore, on va en parler encore du bagarre qui a servi oui. comme étincelle ». Mais Sherrod, de prendre cette décision-là, et c'est clair, Dominique Ducharme l'a dit, quand il était demandé la question, c'est facile à dire maintenant, il s'est blessé, alors il n'aurait pas dû le faire. Mais après ça, j'avais pas l'impression qu'il était tout à fait d'accord avec les décisions de Ben Sherrod, tandis quand il était demandé la question concernant Anderson, je croyais Dominique Ducharme quand il disait qu'il n'y avait aucun problème avec ça, puis je suis quand même pas mal d'accord avec lui.
Oui, absolument. Ouais, c'est que moi, ce qui m'a piqué un petit peu, c'est le réflexe, étant donné que les deux événements sont si rapprochés, de les mettre ensemble puis dire que l'une chose égale l'autre, tandis qu'à mon avis, le contexte est différent. La résultante,
c'est l'opposé. Le contexte, c'est l'opposé. Exactement.
Ouais. La résultante de tout ça, c'est que le Canadien va perdre les services de Ben Sherrod pour plusieurs semaines à cause d'une fracture à la main droite. Est-ce que ça va être 4, 6, 8 semaines? On ne sait pas encore. J'ai bien aimé cependant la transparence de Dominique Ducharme qui n'a pas hésité à dire qu'il souffrait d'une fracture. Il était rentré à Montréal pour ça. Puis quand il nous sort la phrase de dire ben on va en savoir plus, il va passer plus d'examens, c'est pas pour retarder le moment où on donne le diagnostic, mais simplement pour attendre le moment où on va pouvoir avoir une meilleure idée de la durée de son absence. Dans l'intervalle, tu sais, on se le cachera pas, Ben Sherrod jouait pas du gros hockey depuis le début de la saison. Il y avait tellement... Shea Weber et lui avaient tellement bien joué dans la bulle l'été dernier à Toronto. Ça m'a incité à poser la question à Dominique Ducharme dans les derniers jours. Disait, ben écoute, est-ce que ça se peut qu'il y ait une différence de style de jeu entre les séries éliminatoires et la saison régulière? Puis on dirait que ce duo-là est clairement mieux adapté au hockey des séries qu'à celui de la saison régulière. Cela étant dit, même s'il ne jouait pas du gros hockey, il jouait quand même 21 minutes par match, affrontait les meilleurs joueurs de l'autre équipe et était devenu, au cours des dernières rencontres, beaucoup plus responsable. Je pense qu'il y avait... C'était son sixième match de suite au moment de sa blessure où il n'avait pas eu de pénalité mineure alors que ça avait été une véritable plaie pour lui précédemment. Donc, on peut pas dire que parce qu'il est absent, parce qu'il est blessé, le Canadien forme une meilleure équipe. Là, parce que même si les gens voudraient qu'il soit plus loin dans la hiérarchie ou qu'on le place ailleurs dans la formation, le retirer ne rend pas nécessairement l'équipe meilleure.
Là. Non, pas du tout. Écoute, il joue 21 minutes pour une raison. Il joue contre les meilleurs joueurs adverses pour une raison. Et je suis convaincu que... Je pense que son absence va peut-être donner les Canadiens une opportunité de revoir un peu l'organigramme, si tu veux, de leur défensive, pour dire que peut-être Ben Sherrod et même Shea Weber seraient plus efficaces avec moins de minutes, avec moins de tâches difficiles, de tâches... contre les meilleurs joueurs adverses, parce que là, Sherrod ne serait pas là, évidemment. Weber, s'il joue avec Romanov, s'il joue avec Mété, peu importe avec qui il joue, c'est sûr que ses responsabilités vont être différentes. Là. Comme à Calgary, c'était pas lui qui affrontait Matthew Tkachuk le plus souvent, là. C'était Jeff Petrie et Jeff Edmondson. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'à mon avis, depuis quelques semaines, c'est le meilleur duo de défenseurs, je veux dire, du Canadien, en termes de tout ce qui amène. Edmondson, à mon avis, après une première semaine ou deux, peut-être, où il était comme plus ou moins bon, a été pas mal solide pour le Canadien. C'est un gars, tu sais, il est ce qu'il est. Et je veux même pas parler de son plus et son moins. Là. C'est comme juste un gars qui est juste solide. Et en fait, il vient comme tout le monde a dit qu'il va... Il est le gars que tout le monde a dit qu'il va être. Là. C'est un gars sans fla-fla. C'est vraiment meat and potatoes. Un défenseur qui fait sa job puis pas d'autre chose et pas beaucoup plus que ça. Mais faire sa job, c'est assez. Alors, je suis intéressé à voir comment l'utilisation de Shea Weber va évoluer pendant l'absence de Ben Sherrod. Puis si on va voir une meilleure version de Shea Weber avec moins de minutes. parce que c'est bien beau de croire que, rendu à 35 ans, qu'il a besoin de jouer peut-être un peu moins pour se rendre plus efficace, mais Shea Weber, entre ses oreilles, là, c'est pas quelque chose qu'il accepte très facilement, de pas jouer beaucoup. Et je me demande si ça va affecter son niveau de jeu. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine de voir pour le Canadien, parce que, comme tu as mentionné, ce qui est important avec Shea Weber, ce qui est important avec Ben Sherratt, c'est de l'avoir pendant les séries.
Oui.
C'est ça qui est important. Alors, rendu en série, joue-le 25 minutes par match, je m'en fous. Mais avant ça, c'est quasiment un sport différent. Puis dans le sport de hockey de saison régulière, Shea Weber n'est pas aussi efficace, Ben Sherratt n'est pas aussi efficace non plus, que le sport du hockey de série, où les deux gars sont tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient ça, avoir deux gars comme ça. Mais avant de se rendre là, puis évidemment, le Canadien doit s'assurer qu'ils vont se rendre à cette étape-là. Je pense qu'il y a un ajustement qui serait nécessaire avec ces deux gars-là. Alors, avec l'absence de Sherratt, peut-être que l'ajustement va se voir avec Weber, puis peut-être que le Canadien va voir ce que ça donne quand Shea Weber joue peut-être 18-19 minutes par match au lieu de 22.
Ben écoute, ça implique cependant que le troisième duo se fasse donner plus de minutes. C'est probablement, dans le cas de Victor Mété, la chance qu'il attendait. T'sais, il a beaucoup été question au début de saison du fait qu'il avait demandé une transaction. C'est clair que lui, il cherche une place, il cherche une occasion de se faire valoir. Je pense que là, au moins d'ici la date limite des transactions, ça va être l'occasion lui est servie sur un plateau d'argent. Puis s'il saute pas dans le train maintenant, je pense que dans son cas, avec le Canadien, ça va être réglé pour la suite. Alors, j'ai bien hâte de voir, parce qu'il va falloir quand même trouver le moyen que le troisième duo donne plus de minutes aux Canadiens. Est-ce que Kulak et Mété sur une troisième paire, ça va être suffisant pour que Dominique Ducharme dise « Bon, mais parfait, eux autres, mis ensemble, ces deux gars-là, je peux leur faire confiance pendant 19 minutes par match. » C'est pas clair, parce que Romanov et Kulak ensemble, Kulak jouait davantage 14 minutes. Romanov, ça pouvait se rendre avec les unités spéciales certains soirs à 18. Mais c'est à peu près ça. Tandis que là, dans le scénario que tu suggères, où l'effet de la blessure de Sherratt, ce serait de diminuer l'utilisation de Weber, pour ôter des minutes à Weber, il faut que tu en donnes plus à d'autres. Alors, ça va être intéressant. Je pense que la profondeur du Canadien va être bien testée à ce niveau-là. Et tu disais, je veux pas mentionner les plus et moins de Joel Edmundson. Moi, je vais m'amuser avec ça un instant pour te dire que là, pour l'instant, Joel Edmundson est à plus 26 en 26 matchs. Donc, à chaque match, en moyenne, il ramasse un plus 1. Dans l'histoire du Canadien, c'est arrivé environ une dizaine de fois que un joueur a réussi à avoir un différentiel supérieur à son nombre de matchs. Selon mes recherches, la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 81-82. Il y avait eu Brian Engblom et puis Rod Langway qui avait été qui avait surpassé ça. Langway avait fini plus 66 en 66 matchs et Brian Engblom plus 78 en 76 matchs. Donc, mais depuis ce temps-là, évidemment, ouais. Et c'est étonnant parce que c'est un moment où les... Tu sais, Engblom, là, à ce moment-là, ces deux gars-là, c'était pas des machines offensives. Puis bon, Engblom l'a jamais été non plus. Là. Mais c'était après les années fastes du Canadien. Là, on arrive dans le début des années 80. C'était un peu plus difficile. Mais ça a été les derniers. Donc là, je doute que qu'Edmundson va réussir à maintenir le rythme. Mais ça donne quand même... Quand tu sais, on parlait du début de saison difficile de Sherratt. Entre Edmundson et Sherratt, il y a quand même un indicatif avec les plus et moins de dire ben, il y en a un qui a vraiment été sa glace qui a davantage aidé son équipe à marquer des buts et à n'en prévenir que l'autre joueur qui, lui, pour qui ça a été pas mal plus difficile.
Ouais. Il faut. Évidemment, Jeff Petrie a un mot à dire là-dessus.
Ben oui, ouais, c'est clair.
Il connaît une saison extraordinaire, 10 buts. 10 buts rendus là, c'est il est en chemin vers une saison de 20 buts. Je suis pas certain qu'il va continuer à ce rythme-là, mais c'est ça le rythme qu'il a en ce moment. Mm. Mais bon, c'est quand même plus 26 en 26 matchs, c'est quand même quelque chose. J'aime pas les statistiques. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts là-dedans. C'est pas le meilleur. En fait, c'est un des pires statistiques. Mais la seule façon que je le regarde, c'est quand il y a quelqu'un qui dépasse toute la ligue en ce moment. Tu sais, c'est quand même quand tu es tellement différent que les autres joueurs de ton équipe. C'est une certaine signification pour moi. Là. Tu sais, c'est comme quand toute l'équipe est comme, disons, plus 2, puis un joueur qui est comme moins 15, ça saute aux yeux. C'est OK, bon, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Pourquoi lui est le seul qui est tellement en arrière de tous ses coéquipiers? Tu sais, je pense.
Comme Galchenyuk dans le temps. Là.
Comme Galchenyuk dans le temps. Ça disait quelque chose, et dans ce cas-là, avec Edmondson, je pense qu'il y a une certaine. Il y a une certaine signification à ça aussi. Mais je me demande, tu sais, on savait tous que les Canadiens seraient peut-être dans le marché pour un défenseur gaucher, un gars qui peut tu sais, qui faire bouger la rondelle, un gars mobile pour jouer avec Weber. Mm-hmm. Tu penses-tu que la blessure à Sherratt va motiver ou influencer Marc Bergevin à agir un peu plus rapidement que peut-être qu'il avait planifié cette saison, avec un mois qui reste avant la date limite des transactions?
Sans aucun doute. À mon avis, si ton objectif, comme tu le suggérais tout à l'heure, c'est de gérer l'utilisation de Weber, puis que t'autres un des éléments un des gars qui joue le plus déjà, qui est absent pour plusieurs semaines, je ne suis pas certain que la façon dont la brigade défensive est composée en ce moment va être capable de te permettre de faire ça. Et que je trouve pas que c'est une brigade défensive qui est bien équilibrée au niveau gaucher, droitier, au niveau. Pas seulement tir de la gauche, tir de la droite, mais la capacité de chacun des défenseurs à pouvoir jouer de leur côté opposé, à pouvoir mélanger leur style. Je trouve qu'il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui n'est pas très harmonieux là-dedans, puis de pouvoir ajouter un autre ingrédient, ça m'apparaissait déjà justifié quand Sherratt était en santé. Alors, tu déduis un joueur de l'équation, c'est clair qu'à mon sens, le besoin va se faire davantage sentir, et je compte en parler dans les prochains jours dans un article sur The Athletic, mais à mes yeux, encore plus que n'importe quel type d'aide en attaque, que ce soit un gars pour aider aux mises en jeu ou quoi que ce soit, je pense qu'un défenseur de plus, ça risque d'être sur la liste d'épicerie de Marc Bergevin, ouais.
Oui. Oui, et en parlant de ça, c'est, tu parles de joueur de centre qui est capable de remporter des mises en jeu. Je pense que la position de centre, en général, est quelque chose auquel Marc Bergevin doit être en train de penser. Écoute, ouais. Jake Evans, je dis, tu sais, il joue pas mauvais, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe quand il est sur la glace. Mais plus que lui, il n'y a pas grand-chose qui se passe quand Nick Suzuki est sur la glace depuis 2 semaines, quelque chose de même. C'est quand même assez frappant de voir à quel point il est devenu incapable de provoquer des choses. Tu sais, au début de saison, puis en série l'année passée, une fois par match, Suzuki faisait quelque chose qui te faisait... Tu sais, tu tenais un peu plus debout, tu l'apercevais, tu disais « Wow, ça c'est quelque chose que la plupart des joueurs ne sont pas capables de faire. Mm. » Récemment, c'est beaucoup plus timide de sa part. Il ne tente pas des jeux. Il y avait un moment dans le match contre Calgary où effectivement, Nick Suzuki a provoqué un revirement en zone offensive en étant intelligent. Il s'est placé dans le bon endroit. Il a anticipé le jeu des Flames, puis il était là pour intercepter une rondelle. Puis il était dans une position quand même assez avantageuse de créer de l'attaque, de créer un jeu qui serait menaçant pour les Flames. Et au lieu de faire ça, il a pris la rondelle, puis il s'est mis à patiner vers la ligne bleue, puis tourner en rond, puis il n'a pas fait grand-chose. Puis finalement, la bonne anticipation de Suzuki provoquait ce revirement-là. Il n'y a rien qui s'est passé à cause de ça. Alors, je suis curieux de savoir, tu sais, Kotkaniemi joue bien en ce moment.
Ouais.
Ça ne serait pas surprenant de voir Kotkaniemi aussi passer par un petit léthargie à un moment donné. Est-ce que tu penses que, en voyant ce qui se passe avec Suzuki en ce moment, Bergevin a la même inclination que peut-être peut-être c'est pas juste un gars qui, pour gagner les face-offs et jouer sur le quatrième trio, qui a besoin, mais il a besoin d'un gars qui est capable de remplacer un des deux jeunes quand ils sont en période de léthargie, parce que le timing de cette léthargie-là peut être vraiment critique pour le Canadien.
Ouais, ben écoute, je pense que ça sera pas évident d'aller chercher un joueur à la date limite des transactions qui peut être ton centre de quatrième trio, mais qui est assez bon pour pouvoir suppléer en allant jouer sur un deuxième ou un troisième certains soirs. Parce que si tu sors strictement des spécialistes de la défense, puis tu vas chercher un gars qui est capable quand même de t'en donner offensivement, à ce moment-là, dans le cadre d'un échange à date limite des transactions, le prix peut être élevé parce que c'est le genre de joueur qui est en demande. Notre collègue Pierre Lebrun a mentionné le fait que Eric Staal était allait être disponible sur le marché des transactions, que plusieurs équipes allaient certainement être intéressées à obtenir ses services. Je pense que dans le genre de profil que tu me décris là, d'avoir un gars qui peut être utilisé dans un rôle vraiment là, de soutien, mais qui est capable de s'imposer justement si jamais il y a un problème chez un centre ou un autre, je pense que c'est le genre de gars qui répond exactement à ce profil-là. Maintenant, je sais qu'il a ralenti, mais est-ce que il risque quand même d'avoir beaucoup d'intérêt pour un gars comme Eric Staal? Fait que je suis curieux de voir si le Canadien va être un joueur dans ce dossier-là. Ça se pourrait. Écoute, c'est un encore là, joueur
de candidat, en fait, ce serait le candidat idéal pour remplir le rôle que tu viens de décrire. Là. Un gars qui peut jouer sur le quatrième trio, mais remplacer quelqu'un dans le top 6, c'est le gars parfait pour ça.
Oui, exact. C'est ça. J'aimerais ça qu'il soit un peu plus performant aux mises en jeu, mais peut-être que j'accorde une importance démesurée à ça. C'est juste que le Canadien a tellement de difficultés à ce niveau-là depuis le début de la saison que
Que ça a aussi rapport au fait que tu viens d'écrire un livre là-dessus. Là. C'est comme. Un article super détaillé, un article qui est vraiment comme. Tu peux pas aller plus profondément dans ce sujet-là que tu es allé. Sur les mises en jeu, et c'est super pertinent parce que le Canadien en a besoin de quelqu'un qui peut remporter des mises en jeu, particulièrement en série éliminatoire où chaque jeu est magnifique et prend une importance démesurée, disons, dans certaines situations. Mmh. Et le fait que Philippe Danault semble plus être le Philippe Danault qu'on a connu au cercle des mises en jeu, ça devient effectivement quelque chose que Marc Bergevin doit y penser. Mais oui, ça, dans ce je pense que le rendement récemment de Suzuki fait en sorte que... Et ça ne veut pas dire que Suzuki va jouer comme ça toute la reste de la saison. Là. Je pense, pour être clair, on n'est pas en train de dire que le Canadien devrait aller chercher quelqu'un pour remplacer Nick Suzuki. C'est le rendement dernièrement de Nick Suzuki juste fait en sorte que c'est un rappel où ces jeunes joueurs-là vont connaître des hauts et des bas, la constance... et pas à un niveau où le Canadien peut se fier sur quelque chose de stable de Suzuki et de Kotkaniemi, parce qu'en ce moment, Kotkaniemi joue super bien, mais on sait tous, on l'a vu, il y a la possibilité qu'il va perdre un petit peu sa vitesse ou son niveau d'exécution. Ça se peut que lui aussi il tombe dans une passe comme Suzuki est en train de connaître. Alors, il y a une police d'assurance que je pense semble être nécessaire pour contrer ces périodes-là. Si jamais, en fin de saison, le Canadien a besoin de gagner, 4 en 6 ou quelque chose pour faire les séries, tu ne veux pas avoir un de tes jeunes centres qui est en train de jouer comme Suzuki est en train de le faire en ce moment, rendu là.
Non, mais c'était quand même un risque dès le début de la saison de dire « on va se tourner vers nos jeunes centres, vers Suzuki, Kotkaniemi, puis on compte sur le fait que la progression qu'ils nous ont démontrée dans la bulle, ça se poursuive, puis c'est sans dire que Marc Bergevin a mis tous ses œufs dans le même panier, parce que Philippe Danault est encore là. C'est clair que une partie du succès de cette équipe-là cette saison repose sur la progression de ces deux jeunes centres. Puis dans le cas de Suzuki, il a tellement bien commencé la saison qu'on croyait qu'il allait être complètement à l'abri de la guingue de la deuxième année. Mais sauf que tu mentionnais mon article sur les mises en jeu. Je commence mon article en parlant, en relatant une anecdote relative aux mises en jeu lors du week-end, la série de deux matchs contre les Sénateurs d'Ottawa au début février. Ben, il y a le Suzuki du début de la saison jusqu'à ces deux matchs-là et le Suzuki après ces deux matchs-là, c'est un monde de différence. Dans les 12 premiers matchs de la saison, Suzuki avait récolté 12 points. Et puis, dans les 14 matchs qui ont suivi, seulement 5. Alors, tu sais, et à ce niveau-là, c'est moins de points que Kotkaniemi, c'est moins de points que Dano. Et pourtant, c'est un gars qui joue, tu sais, même dans ces 14 matchs-là, c'est quand même le joueur de centre qui a été le plus utilisé au sein de l'équipe. C'est l'attaquant le plus utilisé chez le Canadien. Alors, cependant, il n'est pas à l'abri de traverser une période creuse. Je pense pas que ça va être éternel, mais tu vois que c'est clairement il y a une baisse au niveau de sa confiance, puis ça paraît dans son processus de décision. Puis ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que par le passé, Jonathan Drouin était le genre de gars qui pouvait vraiment s'éteindre puis devenir tirer son trio vers le bas. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est plus les ennuis de Suzuki qui ont éteint Drouin depuis 3 ou 4 matchs. Alors, j'ai hâte que ce trio-là reprenne du poil de la bête parce que je comprends que c'est très, très rare que tout clique en même temps au sein d'une équipe et que tous les trios fonctionnent en même temps. Mais le Canadien est tellement une meilleure équipe quand ce trio-là fonctionne. Puis c'est pas surprenant que Dominique Ducharme leur ont remis Josh Anderson, parce que c'est vraiment en début de saison avec ces trois gars-là ensemble qu'ils ont eu la meilleure production.
Oui. Alors, écoute, on a j'ai hâte, en fait, de parler à notre collègue Michael Lancette. Alors,
oui.
On va prendre une petite pause, puis on va parler à lui de son nouveau livre sur la carrière et la vie de Georges Vézina.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Alors, on est de retour en compagnie de notre invité cette semaine, Arpin, nul autre que Michael Lancette, un de nos collègues qui a fait récemment paraître la biographie de Georges Vézina, héros méconnu des Canadiens. Michael, bienvenue au Super Athlétique.
C'est un plaisir d'être avec vous, messieurs.
Ah, c'est belle fun que tu sois là. Ça a l'air d'avoir été un projet très ambitieux de retracer la vie d'un homme dont on sait finalement très peu de choses. Hein?
Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est lié à plusieurs aspects. C'est lié au fait qu'il est décédé très jeune, à l'âge de 39 ans, de la tuberculose. Tu sais, ça fait près de 100 ans qu'il est décédé, en 1926. Alors, il décède jeune. Il ne peut pas raconter sa carrière, bien entendu, à ses enfants, à ses petits-enfants, aux médias aussi. Tu sais, s'il avait eu la chance de mourir à... Je dis ça comme ça, 60, 65 ans, ce qui était à peu près la moyenne d'âge d'espérance de vie de cette époque-là. Il aurait pu perpétuer des pans entiers de sa carrière, de parler justement de ce qu'il a vécu à ses débuts avec le Canadien. C'était rock'n'roll ces années-là, ça brassait, la police débarquait pour faire des arrestations en plein match. Tu sais, c'était une autre époque. Puis malheureusement, près de 100 ans plus tard, on en a retenu pas grand-chose à part que ça a été un bon gardien de but, qu'il est décédé jeune, mais tu sais, les débuts du Canadien, comment ça se passait à l'époque, on ne peut entendre parler de ça. Et même ses propres descendants, ses petits-enfants qui ont maintenant 75, 80, 85 ans, avaient à peu près rien su de lui parce que ça avait été un traumatisme pour sa famille lorsqu'il est décédé. Alors, c'était un gros, gros défi de fouiller dans les articles de journaux, dans les actes de notaire pour aller essayer de chercher tout ce que je pouvais trouver. Tu sais, j'ai fait vraiment ratisser de long en large pour essayer de tracer, oui, un portrait de sa carrière, mais aussi de sa vie comme un homme des années 10 et des années 20.
Je trouve ça intéressant que tu as choisi ce projet-là, premièrement à cause du tâche monumentale que tu viens de décrire, de recherche et de trouver les informations nécessaires, étant donné les limitations que tu viens de décrire. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de raconter cette histoire-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé de faire ça?
Bien, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans la Ligue nationale, Vézina, c'est un nom qui sonne encore près de 100 ans après son décès. Ça, ça veut dire que il a été marquant. Puis c'est sûr qu'il y a, une partie du mythe partout dans le monde du hockey qui est lié au fait que justement, il a presque laissé sa vie sur la glace. Là. Lorsqu'il joue son dernier match en 1925, il est diminué, il doit se retirer après la première période, il n'est plus en mesure de continuer sa carrière. Puis je trouvais ça un peu étrange que nous, au Québec, on ait eu un joueur qui a été si important comme ça dans l'histoire du hockey, dans l'histoire du Canadien de Montréal. Il remporte deux Coupes Stanley avec les Canadiens. Puis que 100 ans plus tard, à part savoir qu'il est décédé jeune, qu'il a été un bon gardien de but, on n'a pas su pourquoi il est devenu populaire. On n'a pas su pourquoi il était admiré partout dans la Ligue nationale, puis aux États-Unis, où est-ce qu'il était allé jouer des matchs dès 1912, alors que les équipes américaines n'ont pas été dans le circuit avant 1924 quand même. Alors, pour moi, je trouvais ça un peu triste qu'au Québec, l'histoire d'un des plus grands de chez nous, de l'histoire des débuts du hockey, bien, on n'a rien su de lui. Puis c'est sûr que, bon, je suis un natif du Saguenay. Lui, c'était un gars de Chicoutimi. Donc, il y avait cette petite connexion-là naturelle, mais c'est vraiment le fait que je trouvais que c'est comme un héros oublié de notre sport national. Puis je me suis dit, quel défi incroyable de se relancer là-dedans. Tu sais, j'aime l'histoire et tout ça. Donc, tout ça, c'est comme mis ensemble. Puis ça a fait en sorte que j'ai mené ce projet-là à terme là, dans les derniers mois.
Mais tu parles de son décès. Il est mort en mars 1926. 11 ans après, il y a eu la mort de Howie Morenz. Vraiment, ouais. À l'hôpital, je pense qu'il y a eu un caillot de sang à la suite d'une blessure. Donc, lui aussi, c'est un petit peu... c'est pratiquement dans des circonstances similaires dans la mesure où c'est dans la foulée de leur carrière respective, ouais, avec le Canadien. Mais la mort de Howie Morenz a comme le rendu folklorique. Comment ça se fait que dans le cas de Vézina, c'est au contraire ce qui l'a empêché de nourrir son mythe? Mais on dirait que, je ne sais pas si c'est parce que dans les années 20, le Canadien n'avait pas encore cette voix-là qui faisait en sorte que ce qui lui arrivait avait une telle réverbérance dans la communauté. Mais il me semble que, justement, le fait de dire, écoute, c'est pas un martyr, là, mais qu'il soit mort jeune puis qu'il était la première vedette canadienne-française de l'équipe, ça aurait dû, me semble, contribuer justement à faire vivre son image.
Moi, je pense qu'il a été un petit peu victime de son époque parce que lorsqu'on regarde dans les années 10, dans les années 20, premièrement, la culture, ça ne fait pas trop partie des mœurs d'honorer les joueurs de façon individuelle. Puis tu as raison de souligner Harry Morin. C'est vrai que lorsqu'il décède, bien là, ils font une soirée pour lui. Là. Puis un peu comme il y a eu une soirée bénéfice, mais c'était un match hommage à Georges Vézina. Ça commençait, c'était les premiers balbutiements de dire on honore un joueur d'une façon individuelle. Le chandail, là, les gens me posent la question, pourquoi ils n'ont pas retiré son chandail tout de suite? Bien, à cette époque-là, on ne fait pas ça. On ne retire pas de chandail. Puis le numéro, il n'y a pas une culture du numéro. Tu sais, Georges Vézina, il y a le numéro 1. Ce n'est pas parce que je choisis le numéro 1. C'est qu'à l'époque, chaque gardien de but a le numéro 1. Puis après ça, c'est le point qui a le numéro 2, le cover point qui a le numéro 3, etc. On n'a pas, à cette époque-là, le même rapport avec le chandail, le nom derrière le chandail. T'sais, quand Vézina commence avec le Canadien, les noms des joueurs ne sont pas derrière le chandail. Là. On commence avec les numéros, puis après ça, plus tard, viennent les noms. Alors, je pense qu'il a peut-être été victime un petit peu de cette époque-là. Puis, ça faisait pas, comme je dis tantôt, là, ça faisait pas partie de la façon d'honorer les joueurs. Puis ça a été par la suite. Puis, tu sais, Serge Chavard Junior me racontait que son père lui a dit qu'en 95, lorsque le Canadien a retiré le chandail de Jacques Plante, le numéro 1, ils ont songé à retirer le chandail de Vézina en même temps. Puis, lorsqu'ils se sont dit, bon, ben là, si on retire Vézina, il faut peut-être retirer George Ainsworth aussi, qui lui a succédé. Il faudrait peut-être retirer aussi le numéro 1 de Bill Dernan. Donc, puis là, ils se sont dit, si on entre là-dedans, ça finira pas. Mais en tout respect pour ces deux gardiens-là, je pense prouver avec mon livre que Vézina est comme dans une classe à part pour la contribution qu'il a faite. C'est quand même 16 saisons avec le Canadien. C'est deux Coupes Stanley, oui, mais à une époque où est-ce que le Canadien n'a pas une si grande équipe que ça. Alors, il tient un petit peu cette équipe-là à bout de bras. Puis, bref, écoute, on ne refera pas l'histoire. Hein, son chandail n'a pas été retiré. Le sera-t-il un jour? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, le livre, je pense, réussit bien à faire découvrir la réelle contribution qu'il a eue, pas non seulement pour le hockey à Montréal, mais le hockey partout, parce qu'il a été admiré, ce gardien-là. Il a été, même sur la route, il était applaudi. À cette époque-là, ça n'existe pas, ça. Les joueurs sont pris à partie, ils font lancer des objets, il y a des agressions physiques. On est ailleurs, puis lui, c'était tout le temps, il avait toujours le respect, peu importe où il allait jouer.
Je pense une partie de la raison que le Canadien est le Canadien, c'est à cause de leur signification culturelle au peuple québécois. À ton avis, c'est quoi la place de Georges Vézina là-dedans à l'époque où il a joué? Parce qu'on comprend que le Canadien n'est pas simplement une équipe de hockey. Est-ce que Georges Vézina a eu un genre d'impact culturel, à ton avis, au Québec?
Ben, moi, je pense que oui, sur trois aspects. Premièrement, c'est un gars d'une région du Québec, alors que lorsqu'il s'amène à Montréal en décembre 1910, premièrement, c'est la première fois qu'il va à Montréal de sa vie. Il arrive là-bas, puis bon, oui, les Canadiens sont les Flying Frenchmen, c'est comme ça qu'on commence à les appeler un peu partout où est-ce qu'ils vont. Vézina débarque là, mais les gars du Canadien, il y a plusieurs Américains là-dedans, un gars comme Jack LaViolette, par exemple. Il y a Newsy Lalonde qui est un Ontarien. Alors, des gars des régions du Québec, il n'y en a aucun. Ce sont des joueurs, règle générale, de Montréal, de Valleyfield, dans ce coin-là, beaucoup de l'Ontario, un petit peu des États-Unis. Et des fois, ils n'ont que de Canadiens français le nom. C'est le nom de famille sonne français, mais un gars, par exemple, comme Newsy Lalonde, c'est un anglophone, mais il a un nom un peu francophone. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il joue un rôle pour les Canadiens français du Québec, des régions du Québec, de pionnier, de défricheur, parce que après lui, c'est long avant de retrouver des grandes vedettes canadiennes-françaises du Québec francophone. Là. Après ça, ça tombe à Johnny Gagnon, à Émile Butch-Bouchard, puis après ça, c'est le Rocket. Et là, il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs autres par la suite. Mais dans les années 10, dans les années 20, il n'y a pas de grandes vedettes francophones des régions du Québec à part Vézina. Donc, sur presque 25-30 ans, il n'y en a pas d'autres que lui. Alors, ça, c'est une autre contribution. Puis, j'aurais le goût de dire aussi qu'il a joué un rôle important. Tu sais, maintenant, on est rendu en 2021, on voit, lorsqu'on a la chance de couvrir le Canadien dans l'ouest du pays ou même de regarder les matchs à la télévision, on se rend compte à quel point il y a énormément de partisans du Canadien dans les provinces de l'ouest, dans les maritimes. Puis, moi, c'est important pour moi de faire découvrir aux gens que il y a peut-être des racines qui ont été forgées dans l'ouest du pays, dans les maritimes, par le Canadien, dès les débuts là, du Canadien, 1910, 1912, 1913, puis après ça, ça va jusqu'en 1925. Lorsque Georges Vézina, lorsque le Canadien vont jouer des matchs pour la Coupe Stanley notamment, bien, il s'arrête de ville en ville. Il débarque à Regina, il débarque à Winnipeg, donc il débarque du train et il s'arrête là, ils vont serrer des mains. Ils se promènent en ville, ils vont jaser avec les gens, ils font des activités. Il y a des matchs bénéfices. C'est ça le début des racines du Canadien dans l'ouest du pays. Puis Vézina, quand il débarque dans ces villes-là, ben il est acclamé. On répartit les équipes lorsqu'on organise des matchs, puis on le met toujours avec l'équipe la plus faible en termes d'attaquants parce qu'on sait que lui est capable de faire la différence à lui seul. Alors, tu sais, il y a une contribution importante dans l'émergence du hockey de l'Ouest parce que le hockey au début professionnel se passe beaucoup dans l'Est. Après ça, c'est développé dans l'Ouest, puis il joue un rôle important là-dedans. Alors, je dirais sur ces trois aspects-là, il y a eu un rôle culturel important du hockey au Québec.
J'ai bien aimé dans ton livre, évidemment, tu relates son enfance puis son entrée dans le hockey. Écoute, il a commencé à garder les buts avec le club de Chicoutimi à l'âge de 17 ans, puis à ce moment-là, il savait pas patiner. Ça, c'est... Tu sais, il avait joué, il gardait les buts en bottes jusqu'à ce moment-là, mais de chausser les patins, puis d'être gardien de but en patins, il a commencé ça à 17 ans. On n'oserait pas imaginer ça aujourd'hui, surtout pas pour un gars qui, en bout de ligne, a eu un trophée de la Ligue nationale qui a son nom, tu sais.
Non, c'est ça exactement. Puis c'est drôle parce que lorsqu'on relit le premier livre qui a été écrit sur l'histoire du hockey, là, de Farrell en 1899, ben on est en mesure de constater à quel point la position de gardien n'est pas tellement valorisée. T'sais, on dit, ah, si le gardien n'est pas très bon patineur, c'est pas trop grave, il faut qu'il limite ses mouvements. C'est, on s'en limite à ça. Puis après ça, ben lui arrive, oui, il apprend à patiner et tout ça, mais tout de suite, il se fait une réputation, il se fait une crédibilité de bon gardien à Chicoutimi. Puis après ça, je parle beaucoup justement de l'émergence de ce club Chicoutimi-là qui lance des invitations aux meilleures équipes de Montréal, le National de Montréal, le Montagnard de Montréal. Ça, c'est avant la création du Canadien. Puis après ça, il y a les Bulldogs de Québec qui est la meilleure équipe de Québec. Puis le club Chicoutimi bat toutes ces équipes-là. Et là, le Canadien organise en février 1910 un match d'exhibition à Chicoutimi. Et Chicoutimi gagne 11-5 contre le Canadien qui vient d'échanger New Zealand. Alors, c'est sûr, c'est pas à ce moment-là, le Canadien n'est pas une grande équipe de hockey, mais quand même, tu sais, cette équipe-là est quand même en mesure de battre le Canadien. Puis, dans les, plus de 100 ans plus tard, on retient que, bon, il y a des gens qui nous ont dit le Canadien a découvert Vézina ce soir-là. Moi, mon interprétation des choses, c'est que je pense qu'il avait entendu parler de cette équipe-là, il avait entendu parler de Vézina parce que son nom circule dans les journaux, dans les semaines, dans les mois, dans les années avant tout ça. C'est juste que, bon, dans le mythe, on retient que le Canadien a vraiment découvert Vézina dans ce match-là. Je mets un petit peu des bémols, mais. Tu sais, c'est le début du hockey dans les régions du Québec aussi. Ce sont les débuts, là. On se lance des invitations. Chicoutimi est tellement loin qu'ils font partie d'aucune ligue. Alors, ils affrontent une équipe de Chicoutimi, puis après, ils lancent des invitations, puis ils offrent des montants d'argent pour que les équipes aillent jouer des matchs là-bas tellement c'est loin. On dit que la route mène quasiment au pôle Nord.
Au pôle Nord, oui.
C'est loin. Alors, tu sais, j'ai essayé de recréer un petit peu ces débuts-là en faisant découvrir c'était quoi le hockey de cette époque-là, c'était quoi la réalité du Canadien, comment on voyageait par train, comment on faisait les camps d'entraînement. C'était ça, cette trame narrative-là d'histoire, c'est vraiment ça que j'ai voulu créer tout au long du livre. En même temps, on accompagne la vie puis le parcours de Vézina.
Si ça ne te dérange pas, je suis certain que nos auditeurs sont au courant, mais je vais leur... Évidemment, tu es aussi un grand expert du hockey junior ici au Québec, puis après des années d'avoir fait du travail excellent pour TVA, mais je serais intéressé d'entendre un peu, est-ce que, quand tu regardes la situation maintenant dans la Ligue junior majeure du Québec, qu'est-ce que, et étant donné que tu connais tellement ce milieu-là et tu connais tellement les joueurs qui participent dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment puis ce que les joueurs sont en train de vivre pendant cette pandémie-là?
Bien, ça se passe sur deux choses que j'aimerais approfondir. Premièrement, c'est bien, j'ai trouvé ça bien dès le départ que le hockey junior, la Ligue de hockey junior majeur du Québec veuille jouer puis fasse tout ce qui était possible pour que les joueurs puissent jouer cette année. Tu sais, je regarde ce qui s'est passé dans l'Ontario, dans l'Ouest, ça a été très long pour eux. Puis du point de vue du développement des joueurs, c'est sûr que c'est imparfait. Tu sais, on regarde le classement de la LHJMQ cette année, il n'y a pas une équipe qui a joué le même nombre de matchs. Ils se sont à peu près pas toutes, tu sais, ils ont affronté à peu près toutes les mêmes équipes. Il y a eu des pauses, ça ne s'est pas passé, tu sais, ça n'a pas été facile, mais ils ont été capables de jouer. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs du Québec, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiet quand même pour le hockey junior. Puis ça, je vais parler de façon du point de vue canadien parce que, bon, oui, il y a eu une aide gouvernementale ici au Québec pour les équipes du Québec, mais si on enlève cette aide gouvernementale-là, je m'inquiète pour l'après parce que ça fait près d'un an, tu sais, ça fait un an là, maintenant que les équipes sont dans l'oubli presque complet parce que du point de vue des diffuseurs, il n'y a plus de matchs qui sont diffusés. Alors, tout se passe par Internet, mais la qualité de la diffusion n'est pas ce que c'est dans la Ligue nationale. Puis, je sens qu'il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de partisans qui suivaient ça quand même de façon assidue un peu partout, qui se sont un petit peu distancés, qui ont décroché un petit peu du produit du hockey junior. Mmh. Puis, ouais. Ça, pour le long terme, ça peut être très, très, très dommageable. Fait que je ne sais pas à quel point il va y avoir encore 18 équipes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans 2, dans 3, dans 4 ans. Je m'inquiète de ça parce que je trouve qu'ils sont un petit peu tombés dans l'oubli en ce moment. Puis on verra la suite. Ils ont essayé de s'ajuster le mieux qu'ils ont pu à ce qui se passe avec la pandémie, mais je pense qu'il va y avoir des victimes collatérales de ça du point de vue du nombre d'équipes. Puis ça va avoir des conséquences sur plusieurs marchés pendant longtemps.
Qui serait le plus en difficulté?
Ben, écoute, il y a des équipes comme Val-d'Or, comme Bécomo, comme Batters qui vont sortir à fragiliser de ça, j'en suis convaincu. Ouais. Déjà des équipes qui ont vécu des années difficiles. Le Val-d'Or, cette année, du point de vue hockey, c'est peut-être la meilleure équipe du circuit. Mais tu t'imagines, s'ils ont vécu des années difficiles, c'est leur meilleure année, c'est leur année de peak, là, comme on parle dans le jargon de hockey, puis avec les cycles de reconstruction et tout ça, et ils n'ont pas un spectateur dans les gradins. Tu sais, règle générale, ces saisons-là servent à rendre flouer les coffres, à faire un petit peu de sous, à dégager du profit pour se préparer pour les années de vache mec qui vont suivre après, puis tu perds de l'argent et tout ça, c'est pas facile. Alors, c'est pas évident. Puis, tu sais, Bécomo, bon, l'équipe appartient à la ville de Bécomo, mais là, en temps de pandémie, les municipalités font des déficits. Alors, tu sais, à quel point ils vont pouvoir continuer à éponger les déficits d'opération de l'équipe. Ce sont les taxes des gens, là, tu sais. Alors, c'est difficile. Je pense que ces équipes-là vont avoir de la difficulté à se relancer quand ils vont pouvoir réadmettre des partisans.
J'étais curieux de t'entendre aussi sur les principaux espoirs québécois au prochain repêchage. Il y a beaucoup de questions de Zachary Lheureux, il y a question de Xavier Bourgault. Lequel vois-tu comme étant probablement le meilleur espoir dans le groupe de joueurs admissibles au prochain repêchage?
Ben écoute, Xavier Bourgault, moi, je l'adore. C'est un gars qui a une super belle progression en termes de hockey puis du potentiel qu'il a. Ben, Zachary Lheureux, c'est un naturel. Honnêtement, Zachary Lheureux, dès que je l'ai vu entrer dans la Ligue à 16 ans, j'ai fait les premières entrevues avec lui, ça avait été un choc de première ronde. Je me suis dit, waouh, quelle maturité. Puis, j'aurais le goût de le comparer un petit peu en termes de profil, disons ça comme ça, parce que du point de vue du joueur, sont différents, mais Maxime Comtois, en termes de potentiel de joueur, là, c'est un gars qui est à maturité physique, qui n'hésite pas à aller dans le trafic et tout ça. Zachary Bolduc avec Rimouski, un super potentiel, une grosse saison l'année passée avec l'Océanique de Rimouski, alors il faut le surveiller. C'est un gars qui un marqueur naturel, un bon lancer qui a à peu près tout pour lui, un bon coup de patin aussi. Alors, il y a plusieurs joueurs comme ça dans la LHGMQ cette année qui sont des bons espoirs pour 2021. Je pense que ça va être une bonne cuvée cette année. Puis, je suis heureux pour ces gars-là qui puissent jouer. Tu sais, je le disais tantôt, ce n'est pas une année qui est parfaite, mais au moins, ils ont pu jouer puis pas rater d'action. Parce que, tu sais, lorsqu'on regarde du point de vue international, ça a joué partout à peu près cette année-là. C'est juste ici au Canada, on a été... dans l'Ouest, dans l'Ontario, ils ont préféré pas jouer. Mais au moins aussi au Québec, en tout cas, les gars de chez nous n'ont pas perdu de terrain versus les Suédois, les Russes, où est-ce que ça a joué partout.
Ouais.
Une chose que je voulais te demander avant qu'on termine, c'est, tu sais, les Canadiens ont, chaque année au repêchage, ils se font demander, tu sais, pourquoi il n'y a pas plus de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec? C'est la question auquel Trevor Timmins a répondu à chaque année depuis 10-15 ans. Et c'est correct. Je pense que c'est correct et c'est quelque chose que il y a des attentes envers le Canadien au niveau du repêchage et je trouve ça entièrement correct que la question soit posée. Toi, tu as l'opportunité, ou tu l'avais avant tout ça, là, mais tu as l'opportunité de parler à ces joueurs-là. À ton avis, est-ce que c'est important aux joueurs que le Canadien font leur meilleur effort de piger dans leur cours, comme on dit, ou est-ce que juste atteindre la Ligue nationale de hockey, c'est vraiment la priorité pour ces joueurs, ces jeunes-là?
Écoute, je suis un peu tiraillé par ça, dans le sens que, tu sais, moi, je comme vous tous, je pense, là, je suis de l'école qui se dit le Canadien doit prendre les meilleurs joueurs. Puis, tu sais, tu es dans une ligue compétitive, il n'y a pas de cadeaux qui se font là-dedans. Puis même les autres, les 30, tu sais, toutes les autres formations de la Ligue nationale vivent tous le même enjeu, le même problème. C'est de faire de la projection avec des joueurs dont on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont s'ajuster pour les échelons supérieurs et tout ça. Le Canadien est sur la même base d'égalité avec ça. Puis, tu sais, le repêchage, là, c'est un jeu d'erreur, là, dans le sens que comment tu limites les dégâts. Puis oui, tu peux faire de bons coups, mais souvent, tu fais de moins bons coups et tout ça. Puis, ils se battent à armes égales avec ça. Puis, moi, je suis de l'école de dire, faut prendre les meilleurs. Maintenant, ce qui a été problématique, je pense, avec le Canadien au Québec, c'est que quand ils ont pigé en territoire québécois, ils ont, règle générale, pas pris de bons joueurs. Puis, ouais. C'est ça. Là, ça va. ça va avec la connaissance de ton bassin, dans le sens que, tu sais, ils ont deux gars qui sont au Québec, dans les arénas. Ça a déjà été trois, ça a déjà été un. Règle générale, si tu piges dans ce territoire-là, ben, tu dois avoir la meilleure connaissance de toutes les équipes de la Ligue nationale dans ce marché-là. Moi, je pense que le Canadien peut pas, tu sais, il peut pas, oui, il peut se tromper, c'est sûr. C'est un, je l'ai dit tantôt, la marge d'erreur est tellement élevée dans le repêchage. Mais, tu sais, ils ont laissé des joueurs disponibles leur glisser entre les mains. Je pense à un gars comme Philip Myers. Tu sais, je veux dire, ouais. J'aurais pu parler de Philip Myers aux gens du Canadien là, s'ils n'ont pas vu, s'ils n'ont pas vu son potentiel avant ça. Mais tu sais, bref, c'est un exemple. Mais en tout cas, moi, je pense que si je comprends la réalité, repêcher le meilleur joueur, mais j'ai trouvé qu'ils ont fait des erreurs qui étaient évitables lorsqu'on repêchait au Québec. Mais tu sais, le débat là, sur les francophones, là, les gens vont rire parce que en lisant le livre, j'en parle un petit peu au début. Dès 1909-1910, les Canadiens se font reprocher de ne pas assez prendre des joueurs du Québec, là, tu sais, des Canadiens français, tout ça. Alors, ouais. ça, c'est comme un éternel recommencement. Ça a été ça pendant toute l'histoire du Canadien. Ça va continuer, je pense, parce que cette équipe-là a été créée pour ça, pour donner la place aux joueurs canadiens français. Bon, le mandat a changé, la réalité a changé, puis tu sais, on n'est plus dans cette époque-là, je comprends ça. Mais il y a des racines, puis ce débat-là vient de là. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense qu'ils auraient pu faire davantage, le Canadien, au Québec. C'est ça, ils ont fait des erreurs de sélection qui, bon, ça leur appartient. Des fois c'était ça aurait pu être des sélections qui ont pris des allures de symboles. Tu sais, exemple, cette année, changer un choix de septième ronde, puis bon, l'équipe qui fait la transaction pour aller chercher ce choix-là sélectionne un Québécois. C'est sûr que ça fait mal paraître le Canadien, tu sais. Mais bon, ils peuvent pas gagner à ce jeu-là parce que, bon, il y a plusieurs adversaires, puis il y a plusieurs équipes qui sont prêtes à donner de la place à des joueurs d'ici.
Si je voulais juste revenir à ton livre un instant, tu suggères, là, parce que tu viens de dire que plus ça change, plus c'est pareil à Montréal, puis qu'il y a des débats qui datent pas d'hier. Mais justement, par rapport à la position de gardien, tu sais, les attentes qui sont élevées, la pression qu'on met sur le gardien, le fait que son travail est toujours un point de mire. C'est encore le cas en ce moment avec Carey Price, le congédiement de Stephen Waite, etc. Mais c'était déjà le cas dans le temps de Georges Vézina.
Oui, vraiment. Non, tu sais, tout à fait. C'est comme un éternel recommencement aussi pour ça. Puis vous allez voir, c'est ça sur plein de thèmes. Hein. C'est ça pour les virages jeunesse. À un moment donné, on parle de. Bon, le Canadien là, doit reconstruire. Il faut faire jouer les jeunes, puis il faut échanger les vieux. Mais à cette époque-là, ils disaient tout le temps, mais on n'échange pas Vézina, par exemple. Ça, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça. Puis pour ce qui est de Price, les parallèles entre Price et Vézina sont quand même assez nombreux. Premièrement, deux joueurs qui viennent d'une petite communauté. Qui ne parlent pas beaucoup, alors d'où le titre « L'habitant silencieux », reconnu pour leur calme, comme étant un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur gardien de la Ligue nationale. Vézina, au début de sa carrière, c'est pas le cas, mais à la fin, c'est un des plus hauts salariés de la Ligue nationale, c'est le plus haut salarié du Canadien. On se réfugie derrière lui lorsque ça va moins bien. Puis, dès que Vézina un peu n'est pas à la hauteur de ses standards qu'il a instaurés, ben là, on est sévère avec lui, on le blâme pour des mauvaises performances. Alors, tu sais, ça ne date pas d'hier, ça, là. Puis, c'est vraiment, ça me fait beaucoup sourire, justement, en faisant ce parallèle-là, en me disant, ouais, ben, tu sais, ce qu'on vit maintenant avec Price, ben, tu sais, Vézina, il a vécu ça aussi, là, dans une certaine mesure, bien sûr. Là, c'est la réalité de cette époque-là et pas ce que c'est aujourd'hui. Puis, tu sais, il n'y a pas de caméra de télévision, il n'y a pas de reprise vidéo. La seule couverture que Georges Vézina a, ce sont les journaux. Puis, un petit peu les comptes rendus à la radio, là, des quelques rapports, mais ce n'est pas de la description comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, bon, toute époque étant différente, mais il y a des parallèles que je fais à travers le livre, puis vous allez les voir passer. Là. C'est comme des petits rappels à l'ordre en disant, tiens, ça me semble qu'on vit ça encore aujourd'hui, mais ça avait lieu dans cette époque-là aussi.
Alors, L'habitant silencieux de Michael Lalancette, une biographie de Georges Vézina qui, soit dit en passant, fait partie de la première cuvée de joueurs qui ont été intronisés au Temple de la Renommée en 1945. Un trophée qui porte son nom, mais tout ça, manifestement, n'a jamais été assez bon aux yeux de l'organisation pour retirer son chandail. C'est un débat qui va continuer à ce niveau-là. Michael, merci beaucoup d'être passé au Sport Athlétique. C'est bien gentil de ta part.
Ça a été un plaisir.
Merci, Michael.
OK, bonne journée.
Bon, mais Marc-Antoine, c'est super intéressant d'entendre Michael parler de son livre, puis non seulement ça, mais la philosophie mais le rendement du repêchage au Québec du Canadien. J'ai toujours apprécié entendre Michael sur ces sujets-là. Ouais. Alors,
puis une petite saucette historique aussi, c'est le fun. Je trouve que c'est un changement de ton qui était bienvenu. Ça nous sort un petit peu du quotidien.
Oui, absolument. Bon, alors on va vous laisser là-dessus. On va vous revoir vendredi prochain avec The Athletic Support en anglais, avec une autre invitée qui va être super intéressant, mais on va laisser la suspense s'accumuler, disons, au cours de la semaine. Mais pour l'instant, si vous n'êtes pas encore abonné à Athletic, premièrement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a aucune raison de ne pas le faire parce que le contenu qui est là est tellement intéressant et il n'y a pas une couverture des sports qui est offerte nulle part au monde comme on le fait à Athletic. Et si vous êtes intéressé à s'abonner, vous avez la possibilité de le faire à un taux un peu moins élevé. Tu auras un petit rabais à ton première année, la première année de ton abonnement si vous allez à athletic.com/support-athlétique. Ça, c'est athletic.com/support-athlétique pour avoir un rabais sur la première année de ton abonnement.
Oui, et puis moi, avant qu'on se quitte, je veux également insister auprès de nos auditeurs que n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par le biais de notre messagerie vocale. Donc, ça va cette semaine avec notre invité, Michael. Bon, on sort une semaine, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous avez simplement à appeler au 424-703-3859. 424-703-3859. On va faire la sélection des messages, autant en anglais qu'en français, selon la semaine où on est rendu. Et puis, ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, voilà. Arpin, merci beaucoup encore cette semaine. Puis, on se reparle bientôt.
Bye tout le monde.
Mm-hmm.